Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Le 10-10 aujourd'hui, le 10-10 avec une invitée, Jessica Boussetta. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jessica est la cofondatrice du Locavorium. Non, on va dire, déjà, on va parler de cofondatrice et de Locavorium. Vous voulez qu'on commence par pourquoi Locavorium ou cofondatrice ? Allez, pourquoi vos Locavorium ? Allons-y.
Pourquoi le nom ? Pourquoi
oui,
ce nom ?
Oui, oui.
Alors Locavorium, ça, c'est un mot qui a été inventé donc par nous et qui trouve ses racines dans l'étymologie. Donc l'idée, c'était de mettre en avant le côté locavore, ce qui veut dire manger local, avec le suffixe ium pour parler du lieu. Par exemple, l'aquarium, c'est le lieu des poissons, et le locavorium,
le
c'est le lieu.
Voilà,
exactement.
Et le locavorium.
Et donc le locavorium, le lieu des locavores.
Très bien. Donc ça, c'est le nom de votre entreprise. On va voir ensuite en quoi elle consiste. Mais vous dites, nous, et je vous ai dit cofondatrice, donc vous allez nous en dire un tout petit peu plus. C'est une histoire qui commence pendant vos études.
Exactement. Donc le projet, il est né entre 2014... pour les premières discussions et 2015. Donc on est trois à avoir cofondé Locavorium. Donc Damien et Thibaut et moi. On a tous les trois fait des études d'ingénieur agronome.
Et donc c'est pendant... très sérieuse.
Très sérieuse, exactement,
avec
très complète.
Avec une prépa, tout ce qu'il faut.
Tout ce qu'il faut. La prépa en 2 ans, avec le concours à la fin, l'entrée dans l'école, où en fait, d'un seul coup... Ben voilà, on apprend énormément de choses, on découvre aussi un monde, hein, parce que voilà, l'agronomie c'est très très vaste, ça va de la production à la transformation. Et donc du coup c'est pendant ces études qu'on a eu envie de faire bouger les lignes, notamment en créant Locavorium.
Alors vous faites partie de ces jeunes entrepreneurs, j'allais dire start-upers, mais on verra que ce n'est pas tout à fait une start-up, mais de ces jeunes qui à un moment donné portent quand même une réflexion sur le monde qui les entoure, jettent un œil aussi sur ce qui va se passer, et qui, fortes de leurs études, se disent « mais ça, c'est des savoirs, ou en tout cas des connaissances théoriques, qui souvent ne correspondent pas à une pratique, et nous, on voudrait faire coïncider la théorie et la pratique, ou en tout cas, peut-être initier d'autres pratiques qui seraient plus logiques avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer. »
C'est exactement ça. Alors, juste pour l'anecdote, on a quand même été considérés comme une start-up, puisqu'on a reçu un prix start-up de l'année en 2018, voilà.
Donc, je ne le savais pas.
Donc, je me permets de le placer là.
Ça tombe
mais,
très bien.
Mais c'est vrai qu'en fait, sur le format, on est start-up et à la fois, on est juste une entreprise classique.
C'est-à-dire oui, j'allais dire, on a presque même, quand on rentre dans vos magasins, l'impression qu'on est dans une entreprise ancestrale et traditionnelle.
Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, l'idée, et c'est un peu toujours ce qu'on essaie de faire, hein, c'est d'allier finalement le côté un peu traditionnel et aussi avec l'innovation dans l'organisation et dans ce qu'on propose.
Alors, j'espère ne pas vous contrarier, mais vous êtes quand même trois inconscients. Donc quand même une autre qualité, c'est d'être optimiste. Parce que franchement, vous êtes parti, mais la fleur au fusil, quoi.
Ah oui, bah c'est exactement ça. En fait, la fleur au fusil, on
la
était
salade,
ouais. La carotte brandie bien haut. Oui, alors en fait, quand on faisait nos études, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce qu'on apprenait à l'école pour conseiller les agriculteurs dans des pratiques responsables, etc. Et après, ce qu'on retrouvait, nous, en tant que consommateurs, dans un supermarché, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'on achetait, on ne savait pas comment ça avait été produit et parfois même pas d'où ça venait. Et donc, en fait, c'est ça qui a nourri nos réflexions au démarrage. Et en fait, on s'est dit, mais c'est pas possible, on ne doit pas être les seuls à trouver que c'est pas normal.
Que ça fonctionne pas bien.
Voilà. Et donc, on a eu envie de créer un magasin dans lequel on pourrait aller faire ses courses en toute connaissance de cause.
Alors, le plus simple pour vous, ça a été le magasin.
Oui. Alors, en fait... Comme justement, on voulait proposer quelque chose de différent sur l'offre, donc c'est-à-dire des produits uniquement locaux, en circuit court et avec des producteurs qu'on sélectionnait, on s'est dit qu'il ne faut pas non plus qu'on chamboule trop les choses et qu'on reste dans un modèle qui est connu et compréhensible de tout le monde. Donc le magasin, voilà, la supérette, tout le monde va faire ses courses dans une supérette, tout le monde comprend ce que c'est. Et donc on ne voulait pas forcément rebouger sur les fondamentaux, mais plus sur ce qu'on proposait dans ce magasin.
Voilà. D'accord. Alors... vous partez en faisant un business plan. Mais alors bon, il y a des gens qui vont voir, des spécialistes, des conseillers. Déjà. Vous, vous faites votre business plan en cherchant juste sur Internet comment on fait un business plan.
Oui, c'est vrai. Alors,
c'est inconscient. Vrai. Parce que
oui,
là, vous...
oui, c'est vrai. Peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était très inconscient. On n'en avait pas du tout conscience qu'on était inconscient à ce moment-là. Voilà. Oui, donc nos études, c'était vraiment de l'agronomie, du développement durable. Et on n'a jamais entendu
fait
parler
commerce.
De création d'entreprise, commerce. On n'est pas issus de familles qui sont non plus ni des commerçants, ni des chefs d'entreprise. Donc voilà, on a débroussaillé le chemin comme on a pu à l'époque avec Google, comment faire, le site de la CCI, quelques rencontres. Et puis, voilà, on a monté notre business plan sur des données qui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il
n'y
avait aucune référence sur le fait de manger local. Et donc, on a créé tout de toutes pièces.
Et alors, avec ce petit business plan, figurez-vous que Jessica et, on va peut-être les citer quand même, les deux associés, parce qu'on n'a pas encore dit leur nom. Hein.
Thibaut et Damien.
Voilà. Thibaut et Damien vont voir les banques en disant, voilà, on a une idée, on n'a jamais travaillé, on sort d'une école d'ingénieurs, nous nous lançons dans le commerce et nous voulons faire ça.
Oui, et alors, étonnamment, ils nous ont tous dit non.
Ah voilà. Mince.
Donc ils nous ont tous dit
même
non.
Même le Crédit Agricole. Mince.
Ouais, même le Crédit Agricole. Et donc là on s'est dit ok, alors là ça va coincer parce que sans financement on risque
oui,
de
pas aller
très
loin.
Voilà, avec l'argent de poche de l'époque, ça risque de vite être très compliqué. Donc on s'est dit en fait il faut qu'on arrive à convaincre les banques qu'il y a un vrai intérêt. Et donc l'intérêt, on l'a prouvé en lançant une campagne de financement participatif où on a collecté environ 10 000 euros. Donc, ce n'est pas ça, clairement, qui nous a permis d'ouvrir le magasin au point de vue financier. Par contre, ces 10 000 euros, c'était plus de 200 personnes qu'on ne connaissait pas.
Qui
montraient leur intérêt.
Et ça, ça a pu convaincre des banques.
Effet de levier. Le banquier qu'on a été rencontré suite au financement participatif, il nous a dit, et d'ailleurs on le côtoie encore aujourd'hui, il n'est plus au poste auquel il était à l'époque, mais voilà, il nous a dit, bon, ça a l'air fou, mais moi j'y crois, j'aimerais trop avoir ça dans ma ville, parce qu'en plus c'était le banquier de Saint-Jean-de-Védas, j'aimerais trop avoir ça dans ma ville, je vous suis. Et donc du coup, de là a démarré l'aventure.
Est-ce qu'il est devenu client ?
Il est devenu client. Et même,
il a compris l'intérêt de la chose.
Exactement. Et je pense qu'il a aussi contribué à faire connaître le magasin à son démarrage.
Alors, le 10-10, c'est l'occasion de donner la parole à des gens qui ont des histoires un petit peu particulières, mais aussi qui débouchent, ou en tout cas qui sont animés, on va dire, par une philosophie particulière. Vous allez nous en parler, qui débouchent sur des gros projets. Et vous en avez, c'est certain. Mais pour l'instant, on fait une petite pause musicale, si vous le voulez bien. On sait que vous avez ouvert deux magasins. Un à Saint-Jean-de-Védas, qui fonctionne d'enfer. C'est le magasin de départ.
Mm-hmm.
Et puis l'autre à Fréjorg, mais on dirait un petit mot tout à l'heure de l'autre à Fréjorg et surtout de la période où vous l'avez ouvert.
Très bien.
Vous avez choisi un premier morceau de musique.
Oui, alors vu qu'on est dans la période de Noël, je me suis dit qu'un petit morceau musical sur la thématique était le bienvenu, donc Michael Bublé.
D'accord, Michael Bublé juste avant Noël.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Voilà, nous sommes toujours dans le 10-6, nous sommes toujours avec Jessica qui n'a pas fille, donc Jessica Bucetta qui est la fondatrice, co-fondatrice du Locavorium, on en parle déjà depuis un petit quart d'heure, qui avait choisi cette musique, mais je trouve qu'elle est bien choisie d'abord parce que nous sommes à la veille de Noël, mais c'est vrai quand même que tous les trois, là, les trois co-fondateurs, étudiants qui vous lancez dans un commerce, et puis c'est pas une petite épicerie, hein, vous avez des locaux quand même qui sont... Hein, vous croyez un peu au Père Noël, quoi.
Oui, peut-être, peut-être bien. Bon, jusqu'à présent, ça nous a porté de croire au Père Noël. Donc
le
on va
Père
continuer.
Noël vous a toujours renvoyé voilà. L'ascenseur.
Exactement.
Ou la...
c'est exactement. Ça.
Bon, cela dit, ce qui est intéressant, c'est que vous ouvrez une première boutique qui démarre d'enfer, Saint-Jean-de-Védas. Donc vous n'êtes même pas en centre-ville de Montpellier. Ouais. Pour aller à Saint-Jean, il faut avoir une voiture quand on habite Montpellier ou il faut habiter Saint-Jean. Et puis, vous faites Frais-Jorgues. Et là, vous n'ouvrez pas un bon moment. Et puis là, vous commencez à comprendre ce que ça peut être que de frôler non pas l'échec mais enfin la non réussite.
Oui, c'est ça. Alors donc c'est vrai que le magasin de Saint-Jean-de-Védas, on l'a commencé un peu la fleur au fusil, on en a parlé tout à l'heure. On a démarré avec à peine 60 producteurs. Aujourd'hui, on en a 350 qui travaillent avec nous. Donc en fait, à Saint-Jean, on a toujours été emporté par la boutique elle-même. Oui. C'est-à-dire que le succès a fait qu'on a dû référencer des producteurs, on a dû staffer l'équipe, etc.
Oui. Il fallait qu'il y ait du stock, il fallait qu'il y ait de la variété, il fallait que...
Voilà. Donc en fait, on a toujours été dans l'urgence de répondre à la nouvelle demande, en fait. Et donc en 2019, on a eu envie d'ouvrir un deuxième magasin, parce que depuis le début, notre objectif, c'était quoi ? C'était de montrer que c'était possible de consommer local, que c'était pas réservé à une élite, que c'était pas réservé à des personnes qui ont un certain mode de pensée, en fait, que c'est quelque chose qui peut se faire naturellement et facilement. Et donc, on s'est dit, comment le montrer ? Il faut qu'on montre que ça marche pas que à Saint-Jean-de-Védas, dans le magasin qu'on a ouvert, il faut qu'on ouvre une autre boutique. Et en plus, les producteurs aussi avaient envie qu'on ouvre un deuxième point de vente. Donc très bien, on repart avec la même équipe et on ouvre un deuxième magasin. Manque de bol, on l'ouvre fin 2019, quelques mois plus tard...
Mars 2020.
Voilà, mars 2020.
Premier confinement très sévère.
Confinement très sévère dans une zone qui, en fait, est 100% bureau. Donc ça veut dire plus aucun client. Puisque les gens n'étaient pas autorisés à venir travailler. On était le seul commerce de première nécessité à être ouvert dans la zone. Pas de transport en commun, rien du tout qui amène jusqu'à chez nous. Donc voilà, période assez compliquée. Tout qui a aussi pris du retard, c'est-à-dire que voilà, c'était une zone qui devait se développer un peu plus vite que ce qui a pu se faire du fait des crises qui se sont succédées. Et donc là, en fait, deux options, s'asseoir dans un coin, pleurer sur ce fameux échec, ou alors se dire, qu'est-ce qu'on fait pour remonter la barre, quoi ? En fait, les producteurs, ils sont là, l'équipe, elle est là, et nous, notre projet, on y croit. Donc, en fait, on va pas s'arrêter là. On va plutôt se challenger et revoir, en fait, la copie pour faire en sorte que ça marche.
Alors, se challenger, je traduis dans un langage un peu vulgaire, c'est-à-dire se bouger les fesses.
Exactement, se bouger
pas
les fesses.
Bras croisés en se disant, attendons que ça passe.
Attendons que ça passe et surtout, croyons que ce qu'on a inventé, ça marchera, quoi qu'il arrive. Ben non, en fait, quand les crises, elles sont là, les modèles, il faut les revoir. Et il faut, en fait, se bouger les fesses, comme vous venez de dire.
Et en plus de ça, comme vous êtes optimiste et j'allais dire totalement néophyte, pour vous, rien n'est impossible.
Mais rien n'est impossible.
Tout est idée.
Exactement. Et en fait, pour dire à quel point tout est possible et rien n'est impossible, on a fait des rendez-vous avec des personnes sachantes sur les fins de vie des entreprises. Et en fait, tout ce qu'ils nous ont proposé, on se disait, mais non, mais en fait, ça va pas du tout. En fait, je comprends même pas qu'on puisse nous proposer ça alors qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc en fait, on a dit, tant pis, on fait comme on a l'habitude de faire, on réécrit la feuille de route et on s'y tient jusqu'à ce que ça aille mieux. Et effectivement, en fait, finalement, cette boutique a fini par
émerger, lentement, elle existe.
Mais a fini par trouver sa clientèle très fidèle, comme au magasin de Saint-Jean. Et en 2022, si je ne dis pas de bêtises, en 2022, en fait, on s'est dit, bon, ben voilà, la boutique, on l'a redressée, on a fait en sorte qu'elle fonctionne. Maintenant, ben, on continue notre route folle, on refait tapis et on décide de se développer en franchise pour accompagner d'autres entrepreneurs.
Alors, on va en parler un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de choses que vous avez mises en place, juste par l'observance de ce qui fonctionnait bien mais n'était pas tout à fait satisfaisant pour vous, vous avez à chaque fois, vous avez une grande capacité d'adaptabilité. Mais ça, on va en parler dans quelques instants. Alors, je reviens, moi, quand même, sur les grands principes de ce magasin. Donc, c'est proposer à des gens de toutes conditions, mais aussi des gens qui n'ont pas forcément des moyens extraordinaires, de manger sain. Alors, ce qui joue beaucoup là-dedans pour vous, c'est la proximité. La proximité avec le client, la proximité avec les producteurs, la proximité... Le mot proximité, j'allais dire, vous auriez presque pu appeler votre entreprise Proxy, mais c'était déjà pris. Mais la proximité, ouais. C'est pas l'image de Proxy, c'est ce que vous faites. Mais bon, la proximité, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, est important, quoi.
Oui, c'est une des valeurs fondamentales.
Pas d'intermédiaire, enfin, il y a...
Pas d'intermédiaire. On connaît nos producteurs. En fait, ça, c'est bête, mais finalement, c'est la base. L'objectif, c'est d'avoir une traçabilité parfaite sur les produits.
Presque que des vaches, quoi.
C'est ça. Oui, c'est ça, mais presque. Hein.
Vous allez les visiter, vos producteurs. Vous allez sélectionner chez eux.
On va chez les producteurs. Et puis, les producteurs, en fait, viennent eux-mêmes faire les livraisons aussi dans les boutiques, ce qui permet chaque semaine de pouvoir échanger avec eux et après de pouvoir transmettre ces informations-là à nos clients. Donc voilà, il y a la proximité avec les producteurs, mais il y a aussi la proximité avec notre clientèle. Voilà, tous les clients fidèles du Locavorium, ils le savent, hein, on les connaît par leur nom de famille, leur prénom, voilà, on sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils cherchent, et surtout, on a plaisir en fait à leur expliquer ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. Parce que l'alimentation, c'est quand même un pilier voilà, fondamental de notre quotidien, et c'est une aberration que de ne plus se poser de questions sur ce qu'on ingère, que ça soit pour notre santé, pour l'environnement, pour le territoire. En fait, les impacts, ils sont multiples. Et donc, du coup, pour nous, c'est vraiment central d'avoir une pédagogie là-dessus.
Tout en sachant que vous ne faites pas une fixette sur le bio. Tout n'est pas bio chez vous, parce qu'il y a un côté aussi dans certaines de ces boutiques, tout est bio, tout est local. Tout est... Oui, bah, d'abord, le bio est remis en cause assez souvent. Oui. Et vous avez des agriculteurs qui travaillent très bien de façon traditionnelle sans pour autant être bio.
Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'à la base, ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de pas fermer la porte aux agriculteurs qui n'avaient pas de label bio, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent très bien sans pour autant avoir l'estampille d'un organisme extérieur pour dire qu'ils travaillent très bien.
Ah bah oui, moi j'avais une grand-mère qui faisait des poulets en Périgord, elle n'a jamais eu de label bio. Hein.
Voilà, exactement. Et en fait, c'est justement là l'enjeu, c'est aussi de réexpliquer ça aux consommateurs et de démystifier, et même en fait aujourd'hui de démystifier le bio. C'est-à-dire qu'on a quand même une offre en bio, mais ce n'est pas parce que c'est bio que ça va forcément être plus cher, ce n'est pas parce que c'est bio que ça va forcément être bon. En fait, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, expliquer ce que ça veut dire bio et comment on peut aussi trouver de super bons produits sans ce label. Voilà, donc ça, c'est un enjeu de notre quotidien.
Il y a aussi tout un travail de pédagogie autour de l'alimentation, c'est-à-dire que les clients, ils ne rentrent pas dans un grand lieu où il y a une sorte de pays de cocagne, si je puis dire, où il y a plein de choses, mais où ils se baladent tout seuls. Il erre entre les rayons.
Oui, alors bon, déjà, les magasins font à peu près 300 mètres carrés de surface.
Ce qui est pas mal. Hein.
C'est pas mal. Et à la fois, voilà, ça reste correct. On croise souvent des vendeurs en rayon. En fait, je voulais en arriver là. On croise souvent des vendeurs en rayon. Donc, si on a des questions, déjà, on peut leur poser. La plupart du temps, ils savent y répondre.
Mais ça met en lien quand même aussi, parce qu'il y a un échange autour des produits.
Oui, exactement. Et même sur des produits, en fait, qui sont méconnus. Voilà, on a des producteurs, ils nous font des variétés de radis. Enfin, sincèrement, je pense qu'on les trouve pas voilà, dans les supermarchés, peut-être dans des magasins bio, des petites épiceries peut-être. Et en fait, tout l'intérêt, c'est aussi de pouvoir parler de ces produits pour pouvoir diversifier l'alimentation. Et en fait, même les courges, on dit « Ah, c'est la période des courges ». Oui, non, mais en fait, les courges, il y en a une quinzaine de variétés. Elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leurs utilisations. Et le but, bah, c'est aussi de sensibiliser à ça.
Donc, il y a ce côté pédagogique à la fois dans le bien manger et puis aussi dans tout un tas de choses que nous ne connaissons plus, de nouvelles variétés et d'anciennes variétés qui sont proposées. On se retrouve dans quelques instants. Vous allez nous proposer encore une petite pause musicale. C'est votre choix, c'est votre goût et on l'apprécie pleinement.
Alors, j'ai pensé à Stuck on You, petite chanson tranquille pour se reposer sous un plaid.
Chiller sous une salade. Ouais.
Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Yeah. I needed a friend. In the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Stuck on you. I've been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. Yeah. Oh, it's so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. On that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I've thrown them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Yeah. Oh, I needed a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Oh, I'm mighty glad you stay. Yes, I am. Oh, I'm mighty glad you stay.
Jessica, qui avait choisi cette chanson, Jessica Bucetta, qui est la cofondatrice du Locavorium. Cofondatrice veut dire qu'il y a d'autres fondateurs. Il s'agit en particulier de Damien et de Thibaut. Mais aujourd'hui, elle représente la famille Locavorium. Dans Exactement. La famille, je voudrais la maman. Le papa et le tonton viendront une prochaine fois. Donc, on va parler de ce que vous avez appris en 10 ans. Mm-hmm. Et en particulier en 5 ans, de façon un peu rude avec la Covid pour le second magasin, celui de Fréjord, qui, je rassure tout le monde, va bien. Mieux, mais qui a quand même passé à côté. Oui. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure des entreprises en fin de vie, vous
proche de la correctionnelle.
Oui, voilà, vous étiez mal là. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que vous savez tirer les marrons du feu et faire feu de tout bois. Et ça, c'est une de vos particularités, peut-être justement parce que vous n'avez pas fait d'études de commerce ou d'études bancaires ou je ne sais quoi. Pour vous, rien n'est impossible. C'est juste la volonté de faire aboutir le projet, de trouver les solutions qui vont le faire, quoi.
C'est ça, je pense que c'était une chance de partir de feuilles blanches sans compétences sur ces sujets d'entrepreneuriat quand on a créé nos magasins et qu'on a vécu ces crises successives, bien que des fois, ça n'a pas été tout rose. Hein. Là, on a sorti la tête de l'eau, mais en fait, on n'est pas les seuls à avoir vécu des périodes difficiles. Il y a énormément de magasins bio qui ont fermé sur les...
Et vous avez senti le vent du boulet, vous avez compris ce que ça pouvait être quand d'un seul coup... Ça tourne, ça vire au cauchemar.
Exactement. Et en fait, gérer la décroissance, c'est beaucoup plus compliqué que gérer la croissance, finalement.
Mais ça apprend.
Mais ça apprend énormément. Et ça permet de se reconcentrer sur l'essentiel. Ça nous a permis aussi de finalement nous former à ce qu'on ne savait pas faire. Se former en management, se former en gestion d'entreprise. On est en perpétuel apprentissage avec des gens qui nous accompagnent, mais aussi apprentissage par nos propres erreurs. Et ça, c'est très important.
Vous m'avez parlé tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, dans ces cas-là, il faut réduire les coûts. Pour réduire les coûts, il n'y a pas 36 000 solutions. Parce que ça, c'est comme ça.
Oui.
On a beau être inventif, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais vous avez fait autrement quand même.
On a fait autrement. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'il y avait des choses qui
en fait créer
des frottements. Oui, alors non. Donc ça a toujours été pas une solution.
Ça pouvait en être une.
Oui. Mais du coup, ça n'est pas une chez nous. Pourquoi ? Parce que déjà en fait notre engagement de base c'est de proposer un prix juste. Donc juste, il faut que ce soit juste pour tout le monde, il faut que ce soit juste pour les producteurs, pour le locavarium, pour les clients. Voilà, grosso modo. Augmenter les prix ça peut être tentant. Dans certaines situations compliquées.
Mais ça ne rentrait pas dans votre philosophie qui est de proposer à un maximum de gens la meilleure qualité d'alimentation.
Et avant d'augmenter les prix, la question à se poser, c'est se regarder un petit peu aussi soi-même et son organisation et se dire, en fait, à quel endroit finalement je gaspille ma ressource. Voilà, on a toujours cette notion un peu de sobriété dans tout ce qu'on fait et dans les choix qu'on fait. Et en fait, d'avoir deux magasins, on avait quand même deux structures à gérer et il y avait pas mal d'énergie qui était gaspillée, d'énergie humaine, d'énergie organisationnelle, en fait, et qui nous crée des frais pour rien, voilà, clairement. Donc ça nous a permis en fait de recalibrer tout ça et de faire en sorte d'avoir des magasins qui sont vraiment autonomes avec des équipes qu'on a aussi fait monter en compétences. Ça, c'était super important, en fait, que tout ne repose pas que sur Thibaut, Damien et Jessica, mais que chacun en fait puisse apporter sa pierre à l'édifice. Ce cheminement-là nous a amené là où on en est aujourd'hui et qui m'a aussi amené à pouvoir être là aujourd'hui, à me dégager un certain nombre d'air.
En plus de ça, accepter la dernière minute que j'ai une demi-heure de retard, je vous avais prévenu, mais voilà, et vous rendre disponible. Donc c'est vrai que ça doit être. Ça fait partie quand même d'une organisation parce que vous avez des gens qui, comme moi, sont toujours à deux minutes près. Et là, c'est un bonheur de travailler avec vous. Alors, quand vous avez parlé tout à l'heure de gaspillage, le gaspillage, c'est aussi quelque chose contre lequel vous luttez dans la boutique.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui...
Vous travaillez avec du frais, il y a des dates limites de consommation.
Il y a aussi juste des produits qui s'abîment, les fruits et légumes, ça s'abîme naturellement. La viande, il y a des dates de limites de consommation. Et à la fois, on a quand même cette conscience à se dire, l'idée, c'est pas de gaspiller. On peut pas jeter.
Surtout de la viande, il y a plein de choses.
De la viande, à la base, c'est un animal, c'est un producteur qui a bossé pour, c'est mes équipes qui ont bossé pour, c'est de l'énergie qui a été dépensée. En fait, on ne peut pas juste le prendre pour le mettre à la poubelle. Ça, c'est trop dur.
C'est la solution
en fait.
De facilité, mais ce n'est pas celle que vous avez choisie encore.
C'est pas
une
celle
fois.
Qu'on a choisie. Donc, on en a essayé beaucoup, des solutions pour réduire à droite, à gauche, le gaspillage. Et au final, il est assez minime puisqu'on travaille en direct avec les producteurs. Ils nous livrent plusieurs fois par semaine. Certains reprennent leurs invendus pour les transformer. Oui. Enfin, eux-mêmes, nos producteurs sont dans des démarches aussi qui sont dans le...
Oui, il y a une cohérence.
Voilà, il y a une cohérence avec nos fournisseurs. Et on a un partenariat, par exemple, avec la LPO.
Alors, la Ligue de protection des oiseaux.
Voilà, c'est ça.
Qui mange la viande qui ne s'est pas vendue, en fait.
Exactement. Donc, en fait, on nourrit les oiseaux de l'Hérault avec de la bonne viande de l'Aveyron ou de l'Hérault. Et eux, ils s'en trouvent très heureux.
J'imagine
que vous
n'avez pas eu de retour désagréable.
Non, pour l'instant, on n'a pas eu de plainte.
Et puis, il faut faire connaître ces boutiques. Il faut faire connaître votre principe, votre philosophie, le travail que vous avez déjà fourni, ce vers quoi vous allez. Donc, vous organisez... Il y a tout un côté pédagogique autour de l'alimentation. On l'a vu aussi. Mais il y a quand même une réflexion... autour effectivement de ce que vous avez mis en place et vous avez envie de le faire connaître évidemment en communiquant ce qu'on fait aujourd'hui mais aussi éventuellement de développer des franchises, ça c'est le projet.
Oui, alors ça c'est vraiment notre projet. En fait on se dit que finalement ce système il faut qu'il puisse se développer, que nous 3, on ne pourra pas le développer en ouvrant nous-mêmes des magasins. Par contre, ce qu'on...
C'est la transmission,
voilà,
ça.
Ce qu'on sait faire, c'est transmettre. Et donc, du coup, notre ambition, c'est de pouvoir transmettre à des gens qui voudraient ouvrir leur propre magasin toutes les clés pour pouvoir le faire, voilà.
Voilà, donc tout le process.
Le process allant du référencement des producteurs à l'ouverture du magasin, au fonctionnement du quotidien. Voilà.
Il y a des franchises là-dedans. Déjà prévues là, dans les alentours. Peut-être alors, un peu plus proche du centre de Montpellier.
Alors, centre de Montpellier, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. Voilà, et notamment pour le fait de trouver un lieu, parce que nous, le modèle qu'on sait faire, en fait, c'est un modèle de 300 mètres carrés de vente. Et en fait, 300 mètres carrés dans le centre-ville de Montpellier, c'est pas si évident que ça. Mais par contre, effectivement, on a des porteurs de projets qui sont intéressés et qu'on accompagne en ce moment même pour ouvrir des magasins plutôt sur les environs de Montpellier.
D'accord. Voilà. On rêve du Locavorium au milieu de
Montpellier. Oui, non, mais nous aussi, on en rêve. Ça sera peut-être une étape 2 de notre développement. Et pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on pense savoir faire. Voilà.
Et puis vous aimez, vous êtes jeune, hein, mm-hmm. Je pense qu'en étant étudiant et étudiante, vous avez dû faire un peu la fête, vous aimez organiser des fêtes.
Oui,
au sein du Locavorium. Alors il y a eu des partenariats avec l'Artothèque, mm-hmm. Vous ouvrez une guinguette une fois par semaine pendant l'été, enfin il y a tout ça aussi qui fait partie.
Oui. En fait, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure autour de la proximité. Nous, on aime en fait passer du bon temps avec les producteurs, les clients et en fait se retrouver autour des bons produits qu'on propose. Donc c'est vrai que voilà, les fêtes l'été qu'on organise en général, on fait toujours venir deux ou trois producteurs qui présentent leurs produits, qui les mettent en dégustation, qui les proposent dans des plats,
des préparations.
Voilà. Et puis, on a nos clients qui en profitent finalement pour faire venir des amis à eux, leur faire découvrir le Locavorium. Et donc, pour nous, c'est hyper positif.
Il y a les réseaux, comme pour tout le monde, bien sûr.
Oui.
Mais il y a aussi le bouche à oreille. Parce que sur un réseau, on ne goûte pas. Mm-hmm. On voit des belles photos, on voit des choses, on voit des événements, etc. Mais là, le fait de pouvoir goûter, toucher, parler, etc., c'est génial.
C'est différent. Ouais. Et pour l'alimentation, je pense que c'est primordial en fait, de goûter aux produits. Alors oui, effectivement, on anime nos réseaux sociaux, on peut faire de la pub à droite à gauche, bien qu'on essaie, encore dans la sobriété, de rester concentré dans nos actions de communication. Mais finalement, le bouche à oreille, j'ai ma voisine qui me dit « Va au Locavorium, j'ai acheté ça, c'était excellent. » Et bien en fait, finalement, c'est encore un meilleur vecteur.
Tu sais pas où je l'ai trouvé, etc. Alors, vous avez quand même une gamme très étendue, c'est de l'alimentation. Il y a un petit peu de beauté, me semble.
Oui.
Parce que moi, j'avais vu des produits de beauté, effectivement. Il y a de l'alcool, je ne sais plus, il y a du vin.
Oui, il y a du vin, des bières.
Des bières, et tout ça, c'est local. Qu'est-ce que vous avez d'un peu particulier que je n'ai pas cité entre, il y a le fromage, la boucherie, les
légumes, viande.
Fruits, viande.
Et puis, voilà, l'épicerie.
Un peu de biscuiterie ou une épicerie sèche.
C'est ça.
Avec pas mal de farine. Oui, tout à fait. Voilà, donc on peut tout trouver. On n'a pas besoin de faire 45 000 magasins en plus. Enfin, ça, c'est quand même le principe de ce qu'on peut appeler le supermarché. Hein, mais bon,
exactement. Et à la fois, je tiens aussi à préciser que malgré tout, on ne trouvera pas tout dans un Locavorium, puisqu'on est vraiment sur un cercle de 150 km autour du point de vente pour le référencement. Donc,
c'est-à-dire que vos producteurs n'habitent pas à plus de 150 km du Locavorium.
C'est ça. Et les artisans...
Que ce soit celui de Saint-Jean-de-Védas ou que ce soit... Parce que les distances sont différentes. Hein.
Exactement.
C'est vraiment une règle.
On a des producteurs qui, du coup, ne sont pas référencés dans une des deux boutiques parce qu'ils ont dépassé de 5 km. Enfin, voilà. Hein, c'est,
ça rigole pas. Hein.
Ça rigole pas chez nous. Ouais, voilà. Le cursus de base, c'est ingénieur. Hein. Donc voilà, c'est la règle.
Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que c'était très intéressant. Nous sommes à quelques jours de Noël. Alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier pour Noël ?
Et oui, alors nous, en boutique, on propose des volailles festives.
D'accord.
Donc des chapons qui ont été élevés en plein air pendant plusieurs mois.
Donc, je suppose qu'il faut commander peut-être ?
Il faut les commander.
D'accord.
Vous avez encore quelques jours pour les commander.
Un rayon chocolat plus particulier ?
Alors, chocolat, du coup, on n'en a pas. Puisque le cacao, on n'en trouve pas dans les moins de 150
km. Et voilà.
Et voilà. Donc du coup, pas de chocolat. Par contre, on a un excellent nougat.
D'accord.
Voilà.
Peut-être des fruits confits.
On a des pâtes de fruits.
Voilà.
Mais il y a quand même des gourmandises, hein, des oreillettes. Voilà, on peut quand même se faire des bûches de Noël.
Super.
Mais pas de chocolat.
Bon, vous allez nous donner le numéro de téléphone où on peut vous appeler éventuellement pour commander. Pas de numéro de téléphone.
Alors, pas de numéro de téléphone. Comment on fait? On passe en boutique.
Même si on peut pas.
Alors,
on peut se débrouiller pour aller chercher une livraison.
Oui.
Enfin, une livraison.
Ok. Alors à ce moment-là, je suis désolée, je ne connais pas le numéro par cœur des magasins. Mais par contre, on peut les appeler. En fait, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un, donc un vendeur, que ce soit au téléphone ou en boutique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les volailles festives, elles sont en nombre limité.
Alors, c'est très simple parce que moi, j'ai réussi à vous joindre par téléphone en passant par le site. Donc, si vous avez l'adresse du site, c'est bien.
Oui, locavorium.org.
Locavorium.org, c'est simple. Là, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler les boutiques. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez commander pour Noël. N'hésitez surtout pas. Et surtout, si vous commencez juste votre contact avec Locavorium au moment de Noël, continuez tout au long de l'année parce que c'est vraiment un endroit très particulier avec une philosophie tout à fait, comment dire, sage, traditionnelle et moderne à la fois.
Génial.
Merci beaucoup, Jessica. Et à une prochaine fois, j'espère. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Radio FM Plus.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.